Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, Marianne Paquette au micro, bien heureuse de vous accompagner pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé et vous êtes sur Canal M. C'est le mois d'avril qui amène bien des choses, dont ce mois de la santé bucco-dentaire. Et je trouvais que c'était important de le rappeler parce que, selon une étude indépendante commandée par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, les Québécois ont la pire santé bucco-dentaire au pays. Nous affichons le taux le plus élevé de caries chez les enfants. Vous dire que nos petits se présentent à la maternelle. 42 % de nos enfants, en fait, se présentent à la maternelle avec au moins une carie. C'est beaucoup. Et pourtant, c'est pas parce que le dentiste ne nous coûte pas cher, hein? Je pense que ça résonne des cloches chez vous et dans votre portefeuille. En fait, les Québécois déboursent environ 3 milliards annuellement en soins bucco-dentaires. On en parlera tout à l'heure de cette situation avec Diane Duval, elle présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Aussi, vous parlez de sécurité alimentaire et toujours du point de vue, oui, des enfants, des familles et des communautés plus vulnérables. Selon les chiffres de Moisson Montréal, 18 000 enfants de 0 à 5 ans vivent en situation de pauvreté sur le territoire montréalais. Et pour contrer ça, cet organisme bien connu ici à Montréal s'allie avec Moisson Rive-Sud et le Centre de bénévolat et Moisson Laval pour tenir en ce moment la grande récolte pour les enfants. On souhaite amasser avec cette grande récolte 350 000 $, donc des dons en argent. Ça se tient jusqu'au 16 avril et c'est une occasion de vous présenter pour en parler avec nous le nouveau directeur général de Moisson Montréal, Richard Desdano. Monsieur Desdano, bonjour.
Bonjour, Madame Paquette.
Bien heureuse de vous parler aujourd'hui, de faire connaissance avec vous.
Moi aussi, je suis très heureux de vous parler.
Monsieur Desdano, cette grande récolte, eh bien, elle devait se tenir jusqu'au 9 avril. Vous avez décidé de prolonger la période. Pourquoi donc?
Parce qu'essentiellement, on n'a pas atteint l'objectif financier qu'on s'était fixé. La grande récolte, comme vous le disiez en entrevue, en entrée de jeu, là, c'est un exercice de collecte de fonds, un exercice pour amasser des dons en argent pour nourrir 18 000 enfants dans la grande région métropolitaine qui se couchent le ventre vide à tous les soirs. Et puis, on s'est donné un objectif de 350 000 $ à ramasser. Et puis, malheureusement, là, les résultats sont pas au rendez-vous. Fait qu'on on s'est vu comme un petit peu obligé là, d'étirer la campagne pour une semaine additionnelle.
Et en ce 12 avril, est-ce que ça semble être un plus reluisant comme résultat?
on fait des petits pas. Ouais. On fait des petits pas. On est rendu à 20 % de l'objectif qu'on s'était donné. On est rendu à 70 000 $ seulement.
OK.
Fait qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres.
Oui. Donc, l'importance d'en parler aujourd'hui, je suis contente de le faire avec vous. Vous avez donné une image très, très parlante, M. Desdano, lors du lancement de la campagne le 30 mars dernier, à savoir que dans le Grand Montréal, les enfants qui vivent chaque mois une situation d'insécurité alimentaire pourraient presque remplir le Centre Bell. C'est assez choquant, ça, comme révélation, comme image, du moins.
C'est effectivement épouvantable. Il faut avoir eu des enfants ou des petits-enfants, là, puis se souvenir de l'image et puis du son que ça fait un bébé quand ça a faim, quand c'est réveillé, puis ça a faim. Et puis quand on imagine 18 000 enfants, 18 000 poupons comme ça là, dans un même endroit, là, on se dirait, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. C'est inimaginable qu'on tolère ça dans des sociétés évoluées comme la nôtre.
Ouais.
C'est inimaginable qu'on place pas nos priorités là pour enrayer ça, d'autant plus que l'insécurité alimentaire ou la carence alimentaire chez les poupons, chez les nourrissons, ça a des impacts significatifs sur le développement, autant au niveau du cerveau qu'autant au niveau physiologique. Fait que oui, c'est une image qui frappe l'esprit. Mm-hmm. Et puis, on le répète parce qu'on veut, évidemment, on veut encourager les gens à faire un petit pas puis à contribuer financièrement pour la cause.
Oui. Des impacts sur la santé de ces enfants, des impacts aussi sur les familles, sur les parents de ces enfants-là.
Ah oui, clairement. clairement, lorsqu'on a lancé la campagne, on était au dispensaire diététique de Montréal, là, qui est un des 250 organismes qu'on dessert chez nous à Moisson-Montréal. Et puis, il y avait une dame qui faisait un témoignage qui disait, c'est une professionnelle, là, une grande dame en tailleur, là, tout est là. Elle se présente, elle dit, elle dit, moi, j'ai eu des enfants, et puis quand mon conjoint a eu notre premier enfant, on s'est comme un peu désorganisé. Et puis, on n'en venait pas à bout, à joindre on n'arrivait pas à faire nos fins de mois, on n'arrivait pas à s'organiser. Puis, il a fallu avoir recours à un organisme communautaire pour nous aider là, à retrouver un peu d'encadrement psychosocial, retrouver des trucs pour retrouver notre équilibre. Fait que c'est sûr que la venue d'un premier enfant dans une famille, c'est une étape très importante pour les couples. C'est une étape qui bouleverse énormément nos vies. Pour le mieux, la grande majorité du temps. Puis ça nous remplit de bonheur. Mais c'est non négligeable l'impact que ça a sur les familles. Puis ces familles-là, elles ont besoin de support. Nous, on aide les moissons, on aide en soulageant les besoins alimentaires. Mais on fait ça à travers des organismes qui, eux, offrent une gamme de services beaucoup plus large, que ce soit l'encadrement psychosocial, que ce soit des trucs pour l'allaitement ou toutes sortes d'autres choses là qui c'est ça. Fait que c'est un petit peu notre rôle à nous. Puis comme vous dites, l'avenir des enfants a un impact significatif sur les familles.
Mais je trouve que votre exemple est très juste, Richard, parce que vous parlez de cette femme qui se présente en tailleur. Ce sont des travailleurs, bien souvent, qui sont en précarité, de plus en plus, en fait.
Ça nous amène sur ce qui est en amont de l'insécurité. Ça nous amène sur la pauvreté, la problématique de la pauvreté. La dame qui faisait sa présentation nous disait... Est-ce que vous vous imaginiez que j'étais l'image de la pauvreté à Montréal?
Ben non.
Puis, c'est exactement ce qu'on se disait tous. On disait, ben non. Puis là, cette dame elle était très éloquente. Elle disait, moi, je suis un enfant de Montréal. Elle s'exprimait aussi bien en français qu'en anglais, sans aucun accent. Elle dit, moi puis mon mari, on a une petite business, une petite entreprise. On crée de l'emploi, on crée de la richesse. Mais à un moment donné, on a été désorganisé, puis on a eu besoin de support. On a eu besoin de support pour se faire aider. Des fois, ce qui m'interpelle dans cet exemple-là, c'est qu'on a tous plus ou moins des petits préjugés. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, quand on parle de l'insécurité alimentaire chez les nourrissons, il faut trouver le moyen de mettre nos préjugés de côté, parce que les nourrissons, eux autres, ils n'en ont pas d'option. On ne peut pas leur dire, ben, levez-vous pour aller travailler. On ne peut pas leur faire des commentaires un petit peu insipides comme ça, tant qu'à moi, là. Il faut mettre nos préjugés de côté, puis il faut les aider. Il faut se mobiliser comme société, puis il faut faire un pas par en avant. Il faut les aider, il faut donner. Parce que, comme je le disais tantôt, on choisit un petit peu la société dans laquelle on vit, puis on choisit un petit peu la société qu'on veut laisser à nos enfants. Il faut se demander si on peut faire un pas dans le bon sens, par en avant, pour améliorer la chose. Puis nous, chez Moisson, on est convaincus, là, avec les gens de Moisson Réussite, Moisson Laval, on est convaincus qu'on peut faire une différence. Puis on est convaincus qu'on est capable de ramasser des fonds. On l'a fait dans les années passées. Mm-hmm. Puis on réussit à redonner aux différents organismes. Vous savez, dans la région métropolitaine, là, dans les Moissons, on donne juste à des organismes caritatifs ou communautaires. On ne donne pas aux individus directement. On donne à des organismes qui offrent une gamme de services là, qui couvrent l'insécurité alimentaire, mais qui couvrent plusieurs autres volets, comme je disais tantôt. Le nombre d'organismes qualifiés chez nous a triplé en quelques années.
Ah oui.
Pour les enfants de 0 à 5 ans, là, je parle. Entendons-nous bien, là, je ne parle pas tous ceux qui revendiquent de l'aide alimentaire, mais dans le créneau spécifique des enfants 0 à 5 ans, on a 3 fois plus d'organismes qui sont qualifiés chez nous et à qui on donne à chaque mois. Il y a quelques années, on avait une vingtaine d'organismes, nous, on en a 86. Il y a une énorme pression qui nous vient de notre base, si je peux le dire comme ça, de nos organismes accrédités à qui on veut redonner. Puis c'est pour ça que cette année, on s'était donné un objectif financier un peu plus élevé. Mais c'est parce que la demande est là.
Oui.
La demande est là. Vous savez, au Québec, il y a quelques années, nos gouvernements ont voté des lois, ils ont voté des programmes pour favoriser la natalité. Puis il y en a un certain baby boom qui s'en vient, là. Ben, on le voit dans nos chiffres, on voit le côté, pas seulement l'expression, le bad side, là. On voit le côté plus négatif de ça, où est-ce que une partie de ce baby boom-là est dans la pauvreté.
Oui. Et en même temps, il y a il y a un contexte aussi économique, la baisse du dollar canadien, la hausse du prix des aliments, mais ça amène une difficulté qui change un petit peu le portrait et qui doit, j'imagine, faire redoubler vos efforts auprès de Moisson Montréal et de vos partenaires.
Clairement. C'est sûr qu'on vit dans un monde économique. Fait que, comme vous le dites si bien, là, la fluctuation, on l'a vu là, dans les derniers mois, la fluctuation des prix des légumes, des fruits frais, des légumes frais, c'est sûr que c'est pas sans créer une pression additionnelle sur nos opérations. Mais vous savez, chez les nourrissons de 0 à 5 ans, qui est une clientèle très particulière, parce que c'est une clientèle qui a des besoins alimentaires différents. Là, on pense au lait maternisé, à la nourriture en pot, les céréales pour les bébés, les couches, ces affaires-là. Ça, là, ça représente moins que 1% de tout ce qu'on ramasse, nous, sur une base annuelle. Pour toutes sortes de bonnes raisons, géographiques ou toutes sortes de raisons, là. Puis, on est en pleine croissance. La demande pour ces services-là, pour ces denrées-là, est en pleine croissance. Et puis, le fait qu'on ait peu de sources d'approvisionnement, bien ça crée une grande carence.
Justement, avec les dons amassés dans le cadre de la grande récolte, cet argent-là va servir à acheter, au fond, les produits que vous venez de mentionner, là, le lait, les purées, des collations santé, je pense.
Oui, exactement. Ça sert essentiellement à deux choses. Ça sert à acheter des denrées qu'on n'a pas été capable de se procurer, donc qu'on n'a pas reçu en don, ou ça sert à distribuer des denrées qu'on a. Parce que, imaginez-le, si une compagnie qui fait, mettons, du lait maternisé nous en envoie quelques palettes, ça prend des bras puis des mains là pour défaire toutes ces palettes-là puis diviser ça dans des lots qui font du sens puis qui vont... Chez nous, on a toujours la préoccupation de contrer le gaspillage alimentaire.
Aussi.
Mm-hmm. Fait que là, le format dans lequel entrent les denrées habituellement ne correspond pas au format dans lequel on peut les distribuer. Fait que l'argent ramassé sert soit à littéralement acheter des denrées pour les bébés, ou elle sert à distribuer, à manipuler et distribuer des denrées qu'on a réussi à s'approvisionner à travers nos généreux donateurs. Les banques alimentaires ont un effet de levier économique important là, parce que, vous savez, le gros de nos dons, c'est des dons en denrées, puis on a un petit peu de dons en argent aussi pour financer les opérations, mais essentiellement, à toutes les fois que quelqu'un nous donne $1 pour aider à financer nos opérations, on est capable de distribuer pour $17 de nourriture.
Oh.
On a vraiment un effet de levier économique fondamental. Fait qu'à un moment donné, on est obligé de... Quand les gens nous disent, je vais donner ou je vais aller en acheter, moi, des couches à quelqu'un, on dit, si vous le passez à travers nous autres, on peut utiliser notre levier économique, puis on peut faire bien plus de chemin que vous pourriez en faire avec votre même quantité d'argent. On a fait publier des statistiques, là, notamment par le dispensaire diététique, puis des gens qui sont dans le domaine de façon précise, là. Et puis, on a établi qu'avec $10, on est capable de nourrir 32 enfants pendant une journée à cause de notre effet de levier économique. Avec $10 que les gens nous donnent, on est capable de nourrir, imaginez-le, 32 enfants pendant une journée.
Oui. Et justement, vous demandez aux gens, et on laissera ça à la fin de l'entrevue, bien sûr, là, mais on peut texter, on peut appeler pour donner ce fameux $10. Il y a même les succursales Uniprix aussi qui sont partenaires avec vous pour pouvoir, par un $10, aider 32 enfants. C'est considérable, ça, Richard Dano. J'ai envie de parler avec vous. Vous parliez de contrer le gaspillage alimentaire. C'est important du côté de Moisson Montréal, de ce programme de récupération au supermarché qui vous vaut beaucoup de prix de reconnaissance.
Oui, effectivement. Moi, c'est tout ça, puis je peux en parler bien librement. Moi, je suis nouveau, c'était là quand je suis arrivé. Là, fait que c'est avec grande fierté que je vous en parle. Les gens qui de l'équipe ont convaincu les grandes bannières alimentaires du Québec de nous laisser ramasser la nourriture en fin de vie. Hein? Fait qu'imaginez-le si la pièce de steak que vous seriez allé acheter ce soir à l'épicerie, si sa date de préemption était ce soir, à minuit ou en fin de journée, le supermarché le rejette aux poubelles.
Mmh.
Nous, ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on leur a dit, si vous pouviez la congeler, là, à minuit moins 5, la pièce de viande est encore bonne. Si vous pouviez la congeler, on arrête la prolifération bactériologique, on garantit
La salubrité de l'aliment.
Et puis, on prolonge sa vie. Fait que là, nous, il a fallu s'embarquer dans toutes sortes de d'engagements, si vous voulez, parce qu'évidemment, les chaînes, on disait, on est bien prêts à vous aider, mais on ne veut pas empoisonner le monde, on ne veut pas porter atteinte aussi à nos images corporatives, là, juste à titre. Fait qu'on a mis en place toutes sortes de mécanismes là, pour garantir la chaîne de froid. Fait que les supermarchés, au lieu de jeter la nourriture qui arrive en fin de vie, que ce soit des produits de boulangerie, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit de la nourriture, là, de tout acabit, ils vont congeler ça. Puis nous, deux fois par semaine, de façon générale, on fait le tour de nos 100 quelques supermarchés avec qui on travaille déjà là-dessus. Et puis on ramasse tout ça, puis on fait le tri, puis on redistribue ça à des organismes qui ont des installations pour transformer, pour faire cuire la viande dès qu'elle va dégeler. Parce qu'évidemment, on sait que c'est de la viande qui est en fin de vie, est encore bonne, mais elle doit être transformée, elle doit être cuite immédiatement quand elle va être dégelée. Fait qu'on a garanti à nos partenaires un réseau de distribution qui serait salubre, hygiénique, je ne sais pas ce qu'est le terme approprié, qui serait adéquat. Et puis, dans la dernière année, là, on va avoir ramassé 1 million de kilogrammes à travers notre programme de récupération supermarché. Figurez-le, imaginez-le, 1 million de kilogrammes de nourriture qui serait allée bêtement à l'enfouissement.
Dans nos poubelles, ben voilà.
Oui. Puis là, c'est de la nourriture qui va chez des gens qui n'en avaient pas. Puis, comprenons-nous bien, la viande, là, les protéines, là, c'est ce qui fait souvent cruellement défaut quand les gens manquent de sous pour remplir leur panier d'épicerie.
Oui.
Fait que c'est un programme, à notre sens, à nous, qui réussit très bien, qui va très bien. Puis il va très bien, notamment parce qu'on amène une denrée qui était typiquement absente dans le panier d'épicerie.
Richard Dano, vous avez raison d'être fier de ce programme et aussi d'être nouvellement, comme vous le disiez, à la tête de Moisson Montréal depuis le 8 février. Vous succédez à Danny Michaud. Est-ce que vos objectifs ont changé? Est-ce que vous avez des nouveaux défis, une façon peut-être différente de voir les prochaines années au cœur de Moisson Montréal?
Non, il est trop tôt pour... il serait prématuré pour moi là, de m'avancer sur un terrain comme ça. À ce point-ci de mon introduction chez Moisson, je suis plus préoccupé par développer une compréhension détaillée de l'opération puis des gens à qui on offre du support. Là. Vous savez, Moisson Montréal, c'est comme une espèce de coalition. Hein?
Oui.
Les 250 organismes qui font de l'aide alimentaire ont décidé de centraliser les effectifs ou les activités de cueillette et distribution de nourriture. Fait que nous, on est comme, on vit de cette coalition-là. Fait qu'on a une préoccupation à faire le tour de nos organisations puis de leur demander, est-ce qu'on répond bien à vos besoins? Est-ce que vous, ce qu'on vous donne, est-ce que d'un point de vue quantitatif autant que d'un point de vue qualitatif, est-ce que ça vous permet de desservir les personnes avec qui vous transigez au quotidien à partir de vos organisations, vous autres? Fait qu'à ce point-ci, on est plus... À mon niveau, là, je suis plus dans une dynamique à essayer de comprendre le détail de ça, puis de voir comment on peut bonifier l'offre de service qu'on donne aux 250 organismes. Mm-hmm. On le voyait, vous savez, des fois, on se fait dire, ah, les banques alimentaires, c'est de mettre un plaster sur une plaie, là, puis un pansement sur une plaie, puis ça ne règle pas le problème de fond. Bon, ben, je pense que c'est une incompréhension de ce qu'on fait, parce que, prenons l'exemple du dispensaire diététique, là, qui est de Montréal, qui est quand même un organisme qui vit depuis, je pense, 120 ans, 130 ans au Québec. Nous, là, le dispensaire diététique, quand on leur fournit des denrées alimentaires, les professionnels du dispensaire diététique, ils n'ont pas besoin de déployer de l'énergie pour en chercher des denrées alimentaires. Ils peuvent se concentrer sur le bout de formation, sur des cours pour l'allaitement, sur toutes sortes de cours sur la nutrition des enfants, puis sur la bonne balance des aliments, puis ces choses-là. Fait qu'on contribue indirectement à tout cet effort-là d'éducation puis de sensibilisation. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut. Hein. Ultimement, on se dit, comment on peut combattre ce qui est à la cause de l'insécurité, à la base de l'insécurité alimentaire? Comment on peut travailler pour limiter, sans être idéologiste là, ou utopiste, comment on peut faire un pas par en avant pour diminuer...
Puis un autre pas par en avant, sans reculer. Richard Dano, vous êtes le nouveau directeur général de Moisson Montréal. On doit se quitter, mais je veux prendre 20 secondes au moins pour saluer vos bénévoles, parce que Moisson Montréal, c'est quoi, à peu près 8000 bénévoles minimum, et c'est la semaine de l'action bénévole cette semaine. Je pense qu'il faut les saluer et les remercier.
Sans, comme vous l'avez dit, il y en est passé 8000 chez nous l'année passée. Sans eux, on n'aurait pas pu faire... la moitié de ce qu'on a fait. C'est fantastique, cette collaboration-là, cette sensibilisation-là, cette générosité-là que les gens ont à notre égard. C'est fantastique. Moi, j'aurais le goût de vous demander la permission de laissez-moi 3 secondes pour dire à vos auditeurs que pour aider à la cause de l'insécurité alimentaire chez les 0-5 ans, là, les gens peuvent simplement aller sur notre site Internet qui s'appelle grandrecolte.com.
Oui.
Et puis là, il y a toutes les façons pour donner, que ce soit
par texto, les succursales Uniprix, le numéro de téléphone. On les mettra, ça c'est promis, c'est important pour nous aussi. On mettra tout ça sur notre site, numéro de téléphone, le texto et le site, parce que c'est une cause qui nous touche aussi. Ça sera un plaisir de vous reparler dans les prochains mois, les prochaines années, Richard Danneau.
Merci beaucoup pour votre temps et pour votre implication dans notre cause.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Diane Duval, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et on voulait se donner l'occasion de discuter ensemble dans le cadre de ce mois de la santé bucco-dentaire et en même temps de souligner, je le disais tout à l'heure en introduction, que selon une étude récente menée par votre ordre, justement, ben, les Québécois ont la pire santé bucco-dentaire du pays, un taux assez élevé de caries chez les enfants et en même temps, ben, c'est pas vrai que nos soins bucco-dentaires ne nous coûtent pas cher, hein? Les factures sont plutôt salées chez le dentiste. J'imagine que c'est un enjeu sur lequel vous continuez de vous pencher, Diane Duval.
Ben oui, en ce mois de la santé bucco-dentaire, je dirais que le plus gros enjeu au Québec là, concernant les soins bucco-dentaires, c'est vraiment l'accessibilité aux soins bucco-dentaires présentement. L'étude a révélé, on a fait effectivement une étude économique avec un économiste indépendant et à partir d'études qui ont été faites partout au Canada et d'études aussi de statistiques émanant du gouvernement. Et on constate encore aujourd'hui que 57% de la population peuvent fréquenter annuellement un cabinet dentaire, mais il y a 43% qui ne peuvent pas se le permettre. Et oui, ça coûte très cher. On n'en a pas pour notre argent présentement au Québec. Si par personne et par famille, c'est nous là, qui payons le plus cher là, au Québec par rapport aux autres Canadiens. Et puis, en contrepartie, on n'a pas la meilleure santé bucco-dentaire.
Mais non.
Au Québec, par exemple, on dit bon que chez les personnes de 45 ans et plus, il y en a 56% qui fréquentent annuellement contre 71% ailleurs. Des personnes de 45 ans et plus porteurs de prothèses, on en a 58% ici, 33% ailleurs. C'est quand même important comme écart. Chez les personnes âgées de 45 ans et plus, je donne quelques exemples, n'ont plus aucune dent naturelle, 24% ici, 13% ailleurs. Alors, on n'est pas rendu loin dans notre culture là, de prévention bucco-dentaire.
Et comment on peut expliquer ces tarifs exorbitants chez nos dentistes?
Bien, écoutez, nous, on n'a pas... on a fait une étude, puis on a voulu faire l'étude dans le champ de la prévention bucco-dentaire. Et non pas, on n'a pas étudié, là, on n'a pas fait de comparaison avec les coûts des restaurations dentaires ou des ponts, des couronnes par province. Mais une chose est certaine, je pense qu'on peut attribuer ça à certainement la culture de prévention qui n'est pas là au Québec. Il faut dire que dans les autres provinces, puis je le mentionnais lorsqu'on a sorti l'étude, les hygiénistes dentaires peuvent offrir des services bucco-dentaires directement à la population. C'est pas le cas encore au Québec.
Ouais.
Et assez incroyable parce que c'est ici au Québec où est-ce que les hygiénistes dentaires ont été les premiers à être regroupés à travers un ordre professionnel en 75. Puis on attend toujours avec l'Île-du-Prince-Édouard, mais ici au Québec, dans une province où on est le deuxième en importance qui forme des hygiénistes dentaires, on attend toujours de pouvoir le faire. Et en se faisant, avec de l'équipement plus léger, on peut rendre service à 43% de la population au moment où on se parle, qui ne consulte pas en raison des coûts, justement. Alors, c'est vrai que ça coûte moins cher de prévenir que de guérir. Si on peut instaurer cette culture-là, je pense que ça va avoir un impact sur les coûts des soins bucco-dentaires au Québec.
Parce que ce que vous proposez, Diane Duval, c'est que les hygiénistes dentaires pourraient se rendre dans les soins, dans les centres d'hébergement, les CHSLD, auprès des personnes âgées ou encore dans les écoles pour pouvoir rencontrer les enfants.
Oui, et offrir des services peut-être sous l'angle, par exemple, d'une coopérative de santé, bucco-dentaire. Donc, il peut y avoir des mécanismes qui font que les personnes qui sont moins en moyens puissent quand même avoir des services de base en prévention de nettoyage de dents et de services. Vous parliez tantôt des CHSLD ici, il y a rien qui se fait réellement là, que sur une base... Pour certains, c'est une base volontaire en hygiène dentaire. Et Dieu sait que les personnes âgées, la première chose qui se dégrade rapidement quand ils font leur entrée en CHSLD et qu'ils sont malades, c'est bien leur santé bucco-dentaire et surtout leur hygiène buccale. Et pourtant, c'est le service de base dont ils ont besoin, c'est ça. Un bon nettoyage de dents pour les garder là à moins grand risque d'infection en prévention des pneumonies ou de toute autre infection. Donc, ça reste important au niveau des enjeux.
Important pour la santé globale de tout le monde, de toute façon.
Oui, tout à fait, parce que la santé bucco-dentaire a un énorme impact au niveau de la santé générale des personnes, en vieillissant surtout. Alors, le fait de garder une bonne santé bucco-dentaire, ça nous donne accès à des légumes, des fruits, à pouvoir mordre dans une pomme. Et tout ça, c'est important sur la santé digestive, la santé des personnes. C'est important de garder une bouche avec en bonne santé sans avoir un flot de bactéries qui circulent à travers le sang puis qui nous infectent et qui a des répercussions au niveau cardiaque, cérébral et partout.
Et surtout que ces impacts-là sur notre santé, ça, on l'oublie, hein, vous parliez que prévenir, c'est mieux que guérir, ben ça a des impacts, cette mauvaise santé générale, ce mauvais bilan de santé a des impacts économiques aussi sur notre province.
Ben absolument, parce qu'un coût d'hospitalisation d'une personne parce que justement elle avait des douleurs dentaires ou une infection secondaire à une mauvaise hygiène buccale, par exemple, eh bien, il y a des coûts à ça, là.
Alors, c'est
tout ça. Puis il faut voir, quand je vous disais au départ, l'accessibilité, les coûts, les dentistes se concentrent davantage maintenant dans les grandes municipalités.
On oublie les régions.
Puis on oublie les milieux ruraux, puis on oublie tous ces petits villages-là où les gens veulent vieillir aussi et en santé. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier ces gens-là qui n'ont pas accès. Puis peut-être que l'accès va être encore plus réduit du fait que les dentistes vont vouloir effectivement faire survivre leur cabinet dentaire et s'en aller dans des métropoles ou des centres urbains où est-ce qu'ils peuvent effectivement procurer des soins puis des plans de traitement qui sont bien sûr bien plus coûteux que des plans...
Je vous arrête ici, Diane Duval. Vous êtes présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. En ce mois d'avril, mois national de la santé bucco-dentaire, on continue de vous suivre. Merci, ça a été un plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Jean-Sébastien, merci à toi. Marianne Paquette au micro. Rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.